France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Étonnante ces expériences de quatrième dimension que nous vivons actuellement grâce à la Coupe du Monde. Il suffit que la France joue un match pour vivre une expérience survivaliste. Vous sortez pendant 7h30 et plus personne. Il suffit que la France joue pour observer des transformations physiques. Par exemple, mon collègue de bureau, je ne citerai pas son nom, n'était plus un homme, mais tout simplement une corne de brume sur patte. Voilà. Et puis au coup de sifflet final, là d'un coup, il me dit oui, donc je te disais, Macron au Vatican. Voilà, c'est assez effrayant. Et eux, c'est le maillot floqué de l'équipe des informés qu'ils chantent, I Will Survive. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Marion Mourgue, bonsoir,
bonsoir,
du Figaro. Également Malik Lounès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. Fatima El-Wazdi, bonsoir,
bonsoir,
de Politiquel. Et Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, on parlera d'un service national qui voit flou. On parlera également eh bien, de la SNCF. Attention pour le premier week-end des vacances. Mais juste avant, nous recevons Gilles Juan, bonsoir,
bonsoir,
des Cahiers du Football. Et avec vous, nous allons revenir hein, sur cette rencontre Danemark-France. Alors ça y est, bon, alors, c'est officiel, la France est donc qualifiée hein, pour les huitièmes de finale, on le sait depuis la semaine dernière, mais ce match contre le Danemark ne se montrait pas sous les meilleurs auspices, puisque selon, alors c'est vrai hein, ce que je vais vous dire, un tweet de France Info ce matin, je vous cite, « Coupe du Monde, en route, l'Otari du Zoo d'Amnéville ne veut plus donner de pronostic. » Voilà, alors est-ce que ça se prononçait donc sous des mauvais auspices? En tout cas, Gilles Juan, c'était pas le match de l'année. Hein,
ah non, c'était même le pire match de la Coupe du Monde, le premier 0-0 de cette Coupe du Monde, et on retiendra qu'on est premier du groupe, hein, pas seulement qualifié, mais premier, et puis c'est tout ce qu'on retiendra. Je crois.
D'accord, alors justement, vous dites ça parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup ennuyé, il faut dire, pendant cette rencontre. Tout le monde avait séché, hein, c'était une bonne méthode pour sécher. Mais finalement, on ne s'est pas trop ennuyé que ça parce que pour s'ennuyer, vous savez, il faut être deux. Et c'est ce que nous a expliqué Didier Deschamps au micro de France Info. On l'écoute.
C'est difficile pour tout le monde. J'ai vu d'autres équipes aussi qui sont censées être meilleures que nous, comme l'Espagne ou l'Allemagne. C'est très dur. C'est des blocs compacts avec beaucoup de densité. Et voilà, malgré tout, je répète, sans faire un grand match, on a cette occasion. Évidemment qu'on peut faire mieux, mais c'est compliqué pour tout le monde.
Voilà, Gilles Juan, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que c'était pas terrible.
Oui, cette occasion, mais c'est pas des occasions franches. Et puis, ce qui est embêtant, c'est que la France a l'habitude de jouer contre des équipes comme ça et elle ne trouve pas la solution. Donc, en fait, on a toujours le même problème. On a un peu l'impression de voir toujours un petit peu le même match.
Alors, on dit que l'équipe de France, bon, donc, c'est au qualifié ce soir. Oui. On va connaître son adversaire, d'ailleurs, dans les deux matchs qui opposent entre l'Islande, la Croatie, le Nigeria, l'Argentine. Enfin, entre le Nigeria, l'Argentine et l'Islande. Oui. On dit que c'est coutumier de pas bien jouer au premier tour, mais ça serait pas bien un jour de casser la tradition.
Oui, bien jouer. En plus, je suis pas sûr que ce soit coutumier. Non, il y a des traditions où l'on joue bien dès le début. D'ailleurs, on a d'un gros match, hein, d'un match à enjeu. On a envie de tomber, je crois, contre l'Argentine pour que enfin la France n'ait plus l'excuse d'une équipe qui défend.
Non, j'ai envie de ça. Là, on s'impatiente. C'est Nigeria qui va être qualifié.
C'est possible.
C'est possible. Mais le problème du Nigeria, c'est que ce serait encore un petit peu le même match. J'ai rien contre le Nigeria. Hein. C'est pour avoir un autre match.
Mike Lewis, vous l'avez suivi, vous, ce match France-Danemark,
Êtes... grosse déception à tout point de vue, sportif, financière, global.
Pourquoi financière?
Je parie comme tous les Français. J'ai fait un pari de cœur et j'ai regretté. Mais bon, ceci dit, ce que j'ai appris justement en pariant, c'est que les facteurs psychologiques sont aussi importants que les
du
facteurs
parieur,
sportifs.
La psychologie du parieur?
Non, des footballeurs. Parce que c'est eux qui font les paris, s'ils perdent ou ils gagnent. Et donc l'aspect psychologique est extrêmement important. Et donc effectivement, il y a le facteur motivation, il y a la peur de se blesser. Moi, par exemple, j'étais inquiet que quand Kanté joue, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être le laisser. Parce que c'est vraiment le poumon de l'équipe de France, c'est lui qui tient la maison. Je crois qu'il ne faut pas trop tirer de plan sur la comète pour la suite. On attendait mieux parce qu'on a beaucoup de talents qui n'ont pas su jouer ensemble. C'est surtout ça qui nous énerve. Ils sont marchés sur les pieds devant et c'est ça qui était ennuyeux.
Fatima El-Wazdi, vous la suivez, vous, cette Coupe du Monde? Vous avez le temps
de
la
suivre? Je me suis même abonné à une certaine chaîne pour pouvoir suivre tous les matchs.
Très bien. Et là, alors, vous avez regardé ce match-là,
France-Danemark? J'ai pas regardé parce que j'étais pas disponible. J'ai lu les commentaires sur Twitter et j'étais pas si surprise que ça parce que quand on regarde la teneur des deux matchs et on voit que les joueurs de l'équipe de France ont quand même du mal offensivement à s'affirmer. Le premier match a été laborieux, il a fallu une ouverture de score sur penalty. Enfin, je veux dire, c'est pas évident pour tout le monde. Je pense qu'il y a encore des ajustements. Mais le problème, c'est que physiquement, cette équipe m'a l'air fatiguée dans le sens où je pense qu'ils ont plus le jus. C'est la fin de la saison, donc je pense qu'il y a le facteur physique qui joue beaucoup et peut-être il y a le facteur aussi des consignes du sélectionneur. On va voir. Je pense qu'il y aura plus le choix. dans les huitièmes, il va falloir jouer. Hein, de toute façon,
pour ce prochain match, ça sera samedi à 16h. On verra contre qui. Mais Gigi, c'est possible d'être fatigué. Enfin, toutes les équipes, tous les joueurs.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je suis pas sûr que le cas de la France soit spécifique. Moi, je les sens plutôt prudents, un peu frileux, plutôt que fatigués. Voilà, je crois pas que ce soit une fatigue physique, non.
Et un homme comme Antoine Griezmann, dont on mettait beaucoup d'espoir en lui, on l'a pas vu beaucoup.
Non, on l'a pas vu, les joueurs arrivent pas à le trouver, il arrive pas bien à se placer sur le terrain, on l'a vu se gêner avec Lemar de temps en temps. Effectivement, la solution tactique n'est pas trouvée. Moi, je pense qu'il y a un problème tactique.
Et Christophe Félix?
Griezmann est peut-être fatigué.
Ouais. Vous suivez, vous, cette Coupe du Monde, la Libération d'ailleurs, tout le monde s'arrête aussi à Libération?
Tout le monde s'arrête. Non, tout le monde ne s'arrête pas, mais enfin, quand même, c'est très suivi. Oui, c'est très suivi. Non, mais c'est très difficile de. C'est ce qui est toujours excitant dans le foot, c'est très très difficile de préjuger de la suite. Et le paradoxe de la Coupe du Monde, un petit peu, c'est qu'on voit bien que les différences entre les équipes réputées, favoris, qui ont une grande expérience, qui ont déjà gagné des titres, et d'autres équipes nouvelles, est souvent assez faible, alors qu'en général, à la fin du tournoi, c'est toujours les 2-3 mêmes qu'on retrouve dans le dernier carré. Donc c'est un peu le paradoxe du foot.
Une logique implacable.
Voilà. Est-ce que pour une fois,
c'est l'Allemagne qui va gagner, c'est ça, j'ai dit.
Non, mais est-ce qu'on pourrait avoir une surprise avec un outsider?
On a envie de la Belgique, de la Colombie. L'Uruguay est intéressante aussi. C'est possible.
Le problème, c'est que c'est les équipes qui ont beaucoup d'expérience qui, sur le long terme, enfin sur la durée du tournoi, souvent arrivent à.
Une dernière chose. Les bandes touchent aussi pour remplacer les joueurs qui se fatiguent.
Une dernière chose, Gigion, on va suivre pour les informer, bien sûr, les matchs. Contre un adversaire potentiel, donc celui qu'on affrontera donc samedi à 16h. Ce serait quel le meilleur adversaire pour la France? L'Argentine, le Nigeria? On a vu l'Argentine qui est un peu faible quand même cette année.
Oui, moi je pense que ce serait l'Argentine, parce que le Nigeria ou l'Islande, on aura encore cette équipe en défense très regroupée. Contre l'Argentine, on peut envisager un match plus ouvert, un enjeu, une belle affiche, des stars, on a envie de ça. Ouais.
Et est-ce qu'au Brésil, c'était pas un peu la même chose? La dernière Coupe du Monde, on patinait un peu et puis il y a eu un peu une explosion. Si on s'est dit, ça y est, c'est peut-être possible d'aller un peu plus loin.
Oui, c'est vrai. On se dit ça, je vais finir par arrêter d'y croire, mais je crois encore.
D'accord. Un malentendu.
Voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez suivre les paris de Gigion, en tout cas, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Gigion.
C'est moi qui vous
remercie. Passé ce soir, je rappelle que vous travaillez au Cahier du Football. Merci d'être passé aux informés de France Info. Allez, dans un instant, on va parler bien d'une autre croyance, d'un autre pari. C'est au Vatican que ça se passe. L'info à 20h10, c'est Diane Ferchit.
4 TGV sur 5, 3 intercités TER sur 5 et 2 Transiliens sur 3. Les prévisions de la direction de la SNCF pour demain, 18e et dernier épisode de la grève contre la réforme ferroviaire à l'appel de l'intersyndicale. Une mobilisation que la CGT veut poursuivre cet été avec Sudrail à l'appel à faire grève au début des vacances scolaires les 6 et 7 juillet. De leur côté, la CFDT Cheminots et l'UNSA suspendent leur participation au mouvement. Le navire humanitaire de l'ONG allemande Lifeline pourra finalement accoster à Malte ce soir. Depuis une semaine, il attendait un port pour l'accueillir. Une partie des 233 migrants à son bord sera prise en charge par l'Italie. La France en accueillera également, a annoncé ce soir Emmanuel Macron. L'OFPRA est en route pour Malte, a précisé le président de la République. Il a rencontré en fin de journée le président du Conseil italien de façon officieuse. Et Emmanuel Macron critique également l'ONG Lifeline qui a, selon lui, agi contre toutes les règles. La perpétuité pour Sabrina Couder et Wissem Medouni, le couple de Français condamnés pour avoir tué leur jeune fille au père, Sophie Lyonnais. Un meurtre motivé par la cruauté et le désir de vengeance, selon le juge. Leurs peines sont assorties d'une période de sûreté de 30 ans. Depuis quelques minutes, le Nigeria affronte l'Argentine. L'Islande fait face à la Croatie. À l'issue de ces rencontres, les Bleus connaîtront leur adversaire de samedi pour les huitièmes de finale. Les Bleus qui ont, eux, fait match nul cet après-midi dans le Mondial 0-0 face au Danemark dans un match sans relief. L'avant-centre Olivier Giroud promet de mieux faire samedi.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, est-ce le terme le mieux choisi? Sur un média d'information continue, un commentateur a qualifié la relation entre Emmanuel Macron et le pape François de très tactile. Alors pourquoi pas moite, tant qu'on y est, les deux hommes se sont serrés la main assez longtemps, mais maintenant on se demande bien ce qui s'est vraiment passé pendant les 57 minutes de leur entretien privé, on est quand même un peu curieux. Alors première visite au Vatican pour le chef de l'État et échange de cadeaux très commenté. Emmanuel Macron l'a joué classique en offrant une version italienne du journal d'un curé de campagne de Bernanos dans une édition ancienne. François, lui plus malicieux, a offert des textes et une médaille de Saint-Martin. Saint-Martin connu pour avoir découpé son manteau afin de l'offrir à un nécessiteux. Quand on connaît l'engagement du Saint-Père en faveur des migrants, on peut y voir une allusion à l'actuelle discussion autour de l'accueil en Europe. Cet après-midi, d'ailleurs, Emmanuel Macron a donc reçu le titre honorifique de chanoine de Latran, mais tout ça ne plaît pas vraiment à certains, comme le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Je trouve que c'est ridicule qu'un président de la République française accepte d'être chanoine d'honneur. Nous sommes une république laïque. Bon, est-ce qu'il accepterait d'être moufti d'honneur de la mosquée à l'Aqsa? Est-ce qu'il accepterait d'être rabbin d'honneur de la synagogue, de la grande synagogue de je sais pas où? Tout le monde dirait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire?
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, donc sur son bleu. Marion Mourgue, ça ce sont des critiques que l'on a entendues, hein, notamment de la part de la France insoumise. Mais c'est toujours important, ces visites au Vatican, pour les chefs d'État?
Oui, parce que c'est un chef d'État, ouais. Et que chaque fois qu'il accorde une audience, tout compte. On a même regardé le nombre de minutes de l'entretien. Et donc, à partir du moment où ça dure un peu, on se dit, ça commence à bien se passer. Donc, c'est très symbolique. Il y a eu l'échange de cadeaux. Alors, il y a eu des gestes un peu surprenants, parce que généralement, le protocole fait qu'on ne touche pas le pape et qu'on ne lui donne pas une petite accolade comme ça. Donc, ça,
c'est une caresse, en fait. Hein,
ouais.
C'est
ça, ouais. Donc, ça, c'était assez surprenant. Et le pape, au départ, a eu un visage... On ne savait pas si c'était fermé comme quand il a reçu Donald Trump. Où, voilà, c'était une interrogation. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Mais c'est toujours symbolique aussi des relations entre la France et l'Italie, entre l'État et la religion catholique. Donc c'est important.
Oui, oui Malik Lounès, est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire de Chanoine de Latran, il y a trois présidents en Ve République qui ne l'ont pas reçu. Ce titre, c'est Georges Pompidou, François Mitterrand, François Hollande. Est-ce qu'on est vraiment dans une rupture de la laïcité, comme le dit Jean-Luc Mélenchon?
Rupture de la laïcité, je ne sais pas, mais il y a une forme de récit national qui renvoie à une certaine idée de la France que moi je trouve très marquée. C'est-à-dire qu'il parle à la France d'avant 1789. La France fille aînée de l'Église. Bon, le pays, il est chrétien, il n'est pas catholique, il y a des protestants. Depuis 1789, ce lien est rompu pour une autre symbolique et une autre idée du peuple de France, plus mélangé, plus métissé. Alors, parfois, ça s'est chèrement payé avec l'esclavage ou d'autres choses. Mais je trouve qu'il essaie de s'inscrire dans une sorte de récit narratif historique qui va chercher ses références très très loin, mais qui ne parle pas vraiment au pays. Donc du coup, ça donne moi le sentiment que j'ai, c'est une opération de com mal maîtrisée, mal assumée. Ça peut avoir un intérêt de voir le pape en pleine crise des migrants. Ouais. Pourquoi avoir un geste politique fort? Mais là, c'est pas ça. Il parle des Bretons en disant qu'en plus, on parle de mafia bretonne.
Voilà, alors justement, on va entendre juste ce qui s'est passé. Voilà, je rebondis parce que...
On va retenir que ça, vous savez.
Non, mais justement, ce qui s'est passé, c'est Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian, exactement. Voilà, le ministre des Affaires étrangères qui est avec lui. Et il le présente donc au pape François. Et voilà les termes qu'Emmanuel Macron choisit. Il le présente en tant que Breton. Et voilà ce qu'il rajoute ensuite au pape François qui ne rigole absolument pas à cette petite blague, Emmanuel Macron.
Il y a des Bretons partout, c'est une... les Bretons, c'est la mafia française.
Voilà, c'est la mafia française.
Moi, je suis un moitié breton, je suis choqué d'être comparé à la mafia, franchement.
C'est complètement à côté de la plaque, hein, en termes de communication. Et d'ailleurs, on voit le regard du pape. Enfin,
qui lutte contre la mafia, quand même.
Non, mais c'est une vraie erreur de com, voilà, hein. Il est pas au bon endroit pour ce genre de réflexion.
Alors, Fatima Loisy, est-ce que pour vous, aujourd'hui, aller voir aujourd'hui le pape, en effet, c'est un chef d'État. Dans l'affaire en ce moment des migrants, est-ce que c'est important? C'est un geste encore plus symbolique? Pour vous, ça représente encore quelque chose?
C'est le « en même temps » d'Emmanuel Macron. C'est le « en même temps », on refuse d'accueillir l'Aquarius pour des raisons politiques vis-à-vis de l'Italie. Et le « en même temps », je dois parler aux catholiques et aux chrétiens de France, dans un contexte où très bientôt, on aura les débats sur la PMA, sur tout ce qui est bioéthique, sur la fin de vie. Et c'est le « en même temps » d'Emmanuel Macron. Je trouve que c'est sa philosophie de politique, c'est de parler un peu à tout le monde, d'essayer de jouer un peu sur tous les bords pour pouvoir convaincre un électorat qui lui échappe encore un petit peu, mais qui commence à se rallier à lui.
Christophe Alix, sur cette visite, est-ce que ça veut dire
oui,
quoi?
Oui, je suis
ça,
tout
ça
à fait d'accord.
C'est-à-dire que bien s'entendre avec le pape, est-ce que c'est la garantie que tous les catholiques vont voter pour vous? Enfin voilà, on a
l'impression. Non, mais c'est une condition importante pour essayer de rallier à soi le vote catholique. Et c'est pas la première fois. Hein. Donc il était allé récemment au collège des Bernardins.
Ça fait pour la conférence des évêques de France.
Voilà, où il a parlé, où il a dit le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe de le réparer. Là, c'est un signe, il va voir le pape, mais enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le pape, aujourd'hui, il est beaucoup plus ouvert sur la question des migrants, il est beaucoup plus progressiste que ne le sont aujourd'hui quasiment tous les pays européens. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, entre le pape et certaines franges de l'Église catholique, il y a quelques hiatus et quelques tensions, parce qu'il y a beaucoup, il y a des catholiques en France notamment, qui en général sont plutôt classés à droite, qui trouvent le pape un peu trop à gauche, parfois.
Marion Morgan.
Mais justement, Christophe parlait de la crise des migrants et des tensions. Il y a aussi eu des tensions entre la France et l'Italie. Et Emmanuel Macron a aussi profité de ce déplacement pour voir le président du Conseil italien. Et donc, c'est aussi important, cette rencontre avec le pape, parce qu'on sentait que les relations étaient de plus en plus compliquées avec l'Italie. Et le pape devient aussi...
Oui, c'est un médiateur.
Un interlocuteur.
Je crois qu'il y avait aussi toute une partie autour des chrétiens d'Orient. Ça fait un peu partie de la diplomatie française. C'est une cause qui est très chère au Vatican. Et je crois d'ailleurs qu'ils s'entendent pas trop mal sur le réchauffement climatique, parce que le pape est le premier qui a fait une encyclique
sur le
réchauffement climatique.
En fait, la diplomatie du Vatican est absolument incroyable. Il y avait un documentaire sur Arte, fais la publicité, mais qui était vraiment impressionnant parce qu'on voit au quotidien ce que l'Église fait pour promouvoir plein de causes, que ce soit celle des migrants.
Mais après ça se passe aussi mieux qu'avec François Hollande, parce que François Hollande, c'était au moment aussi du mariage pour tous. On a senti que l'Église, si Emmanuel Macron était là avec la PMA pour toutes, je ne suis pas sûr que ça aurait été le même accueil.
Pourtant, il a réaffirmé la PMA pour toutes. Il n'y a pas trop longtemps, ça a été réfermé par Castaner, donc ça va être fait, la PMA pour toutes.
Le pape s'interrogeait pendant la campagne, parce qu'il disait « je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est ». Et après, justement, avec le discours devant les Bernardins en avril, il y a eu un a priori assez favorable avant la venue d'Emmanuel Macron.
Moi, je ne suis pas sûr que ni l'Église, ni les chrétiens, ni le pape ne soient dupes de l'ambivalence de la position de la France, qui fait la leçon à l'Italie, mais qui ne prend pas sa part. Et donc, partant de là, si Macron qui serait allé voir le pape pour être une chambre d'écho, parce que le pape a des positions très fortes, non seulement sur l'écologie, mais aussi sur les migrants, sur la solidarité, au sens très chrétien du terme, d'ailleurs, sur lesquels Macron ne s'engage pas. Donc on a l'impression d'une visite un peu Paris Match, alors qu'elle pourrait avoir un contenu politique et symbolique beaucoup plus fort.
Alors, nous, en attendant aussi, pendant toutes ces discussions, eh bien, on suit ce qui se passe à Moscou, enfin en Russie, pardon, pour la Coupe du Monde, pour connaître les adversaires de l'équipe de France. Pour nous, Claude Brouillot suit les matchs ce soir. Vous êtes en direct de Russie. Il y a un but pour l'Argentine qui vient d'ouvrir face au Nigeria.
Absolument, l'Argentine qui vient d'ouvrir le score grâce à son leader Lionel Messi à la 14e minute de jeu, qui s'échappe dans l'axe et qui trompe Uzoho, le gardien nigérian. Donc 1-0 pour l'Argentine face au Nigeria après maintenant 20 minutes de jeu, 0-0 entre la Croatie et l'Islande. Ce qui fait que pour l'instant, si les scores en restaient là, eh bien l'Argentine terminerait deuxième et donc rencontrerait la France le 30 juin à Kazan à 16h. Mais il reste encore plus d'une heure de jeu.
Merci beaucoup Claude Brouillot. On aura l'occasion de vous retrouver bien sûr dans la deuxième demi-heure des informés. Pour l'instant, l'info à 20h20, Diane Ferschit.
Aux États-Unis, Donald Trump salue sa victoire après, selon lui, des mois d'hystérie médiatique. La Cour suprême a validé son décret anti-immigration visant 6 pays majoritairement musulmans. Par 5 voix contre 4, les juges ont estimé que le texte n'allait à l'encontre ni de la législation américaine sur l'immigration, ni du premier amendement de la Constitution qui interdit qu'une religion puisse prévaloir sur une autre. Le Brexit apparaît désormais irrévocable pour les eurosceptiques britanniques. La loi organisant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a été promulguée aujourd'hui. A donné son assentiment au texte adopté la semaine dernière par le Parlement britannique. L'enquête sur le groupe AZF est une dénonciation qui a permis les 3 interpellations de ce matin dans l'est de la France. 14 ans après le début des investigations, le groupe AZF avait menacé de faire exploser des bombes sur le réseau ferré français. C'était en 2003 et 2004 contre une forte rançon réclamée à l'État. La dénonciation aurait été faite par vengeance, selon les informations de France Info. 4 TGV sur 5, 3 intercités et TER sur 5 ainsi que 2 transits sur 3 seront en circulation demain. 18e épisode de grève à la SNCF. Sudrail et la CGT appellent à la mobilisation les 6 et 7 juillet. La CFDT et l'UNSA suspendent le mouvement. La barrière de corail du Belize retirée de la liste du patrimoine en danger de l'UNESCO. Elle y figurait depuis une décennie, menacée par l'exploitation pétrolière. La barrière de corail du Belize est la 2e plus grande au monde après celle de l'Australie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors la France a beau être une république laïque, elle parle sans arrêt de religion. Hein. Ainsi aujourd'hui, donc Emmanuel Macron était au Vatican et hier le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a lancé une grande concertation destinée à réformer l'organisation et le financement de l'islam, hein, la deuxième religion de France. Elle aura lieu dans chaque département d'ici au 15 septembre. Emmanuel, est-ce que c'est utile?
On a
l'impression que c'est pas la première fois.
Mais attendez, ça fait 20 ans que l'État. Non, mais ça fait 20 ans que l'État veut organiser l'islam en France et c'est une catastrophe. Donc, si l'État voulait organiser l'islam en France, la meilleure chose à faire, ce serait de pas s'en occuper. Voilà. Et de laisser les musulmans s'en débrouiller. Que l'État fasse respecter un certain nombre de règles. Que, par exemple, les mosquées ne puissent pas être des endroits de recrutement ou d'appel au djihad. Ça n'a rien à voir avec la pratique de l'islam. C'est le respect du cadre républicain. Bon. Moi, je crois qu'une affaire de religion doit être avant tout l'affaire des communautés religieuses. Et quand vous parlez de l'islam, vous parlez de gens extrêmement différents. Parce qu'aujourd'hui, en islam, vous avez des Maghrébins, des Africains, des Pakistanais. Vous avez des gens qui viennent d'un peu partout, qui sont musulmans, qui n'ont pas nécessairement les mêmes rites, pas nécessairement les mêmes pratiques, qui ne vont pas pratiquer la religion dans les mêmes endroits. Bon. Alors, pour terminer, moi, autant je crois qu'il doit y avoir un effort public sur une question particulière, sur deux questions, en fait, qui sont la question des repas halal à la cantine. Et ça, ça se passe plutôt bien. C'est très bien géré, donc qu'on continue comme ça. Et sur l'histoire des lieux de culte, parce qu'on a un problème pratique, c'est qu'on a tout d'un coup une religion qui apparaît avec des millions de pratiquants et qui, évidemment, n'ont pas le patrimoine de l'Église et qui n'ont pas les lieux adéquats à... Et il faut que les pratiquants puissent pratiquer. Ça fait aussi partie de la laïcité.
Ça a été déjà une question aussi sur le financement étranger, puisqu'on ne peut pas en France.
Il y a pas mal de maires, il y a pas mal de mosquées en France qui se sont construites sur des fonds privés, sans intervention d'État étranger, sans intervention de l'État français. Ces structures sont gérées, et c'est même simple, puisqu'en général, c'est géré démocratiquement. C'est-à-dire que vous avez une association avec des statuts, loi 1901, des assemblées générales, etc., etc. Donc, que les musulmans s'organisent, que, effectivement, il y ait peut-être un effort public sur la question des lieux de culte pour leur permettre de financer et de construire, mais d'organiser la religion, ce n'est pas le rôle de l'État.
Et Fatima El-Wazdi.
Alors moi je pense au contraire que c'est assez essentiel aujourd'hui que le gouvernement reprenne la main sur la question. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout républicaines et qui prennent le sujet de l'islam et des musulmans de France et qui lancent des consultations pour devenir porte-parole et ces personnes sont très dangereuses. Je tairai leur nom, mais ces derniers temps...
Ça c'est la concertation qui est demandée qui ouvre la porte
non, mais
à ça.
Si je peux juste terminer. En fait, moi je pense que c'est important que le ministère des cultes reprenne cette question-là parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser... les mosquées à la diplomatie étrangère. Enfin, je veux dire, il y a tellement de problèmes de fonds et de structures, de financement, de pouvoir avoir des lieux suffisamment grands, d'avoir finalement un socle idéologique commun. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'islam, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, il y a des divergences de pratiques qui sont énormes. Les musulmans de France, je pense pour l'ultra-majorité, ne sont pas pratiquants rigoristes. Mais le problème, c'est qu'il y a une minorité qui vraiment prend en otage le reste des musulmans.
Pour vous, c'est utile cette consultation dans des départements?
Pour moi, elle est utile, après, à voir qui sera consulté, parce que
c'est un peu flou,
assez clair, parce que est-ce que ça va être les imams, est-ce que ça va être les préfets, est-ce que ça va être les musulmans qui se rendent dans les mosquées, parce qu'on ne peut pas faire du fichage, donc on ne va pas téléphoner aux musulmans, on leur envoyer un sondage en ligne à remplir, donc en fait le truc c'est que je ne sais pas comment va se faire cette consultation-là, et donc ça me dérange. En revanche, je pense que ce sera une bonne chose de fait, et que ça doit nous mener vers une politique mieux gérée que celle du CFSM aujourd'hui, qui je trouve convient à personne.
Conseil français du culte musulman, Marion Mourgue, c'est vrai qu'on voit bien quand même qu'au sein, c'est cette question de la laïcité, des religions ou de l'islam, qu'au sein de la République En Marche, il y a une fracture quand même sur ce sujet. Il y a les tenants d'une application stricte de laïcité, et puis il y en a d'autres qui voudraient une sorte de laïcité plus ouverte. On ne sait pas ce qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, a choisi entre les deux, aujourd'hui.
Si, on sait qu'il est, en tout cas pour les religions, qu'il estime qu'elles ont leur place dans le débat. On le voit avec sa visite au Vatican, et on sait qu'il a voulu se faire baptiser, donc la religion est importante pour lui. Et il associe aussi les religions, par exemple, au débat sur la bioéthique, on en parlait tout à l'heure. Donc, pour lui, c'est fondamental. Dans le débat, c'est un élément qui structure, comme les syndicats, comme...
D'accord.
Vous parliez d'En Marche, mais c'est vrai que, par exemple, Manuel Valls a une vision qui est totalement différente, qui est une laïcité stricte et même assez rigide par rapport à celle d'Emmanuel Macron. Mm. Donc là, on voit des différences, mais il y a quand même deux questions fondamentales qui vont se poser à En Marche et à tout le monde. C'est la formation des imams et la question de la représentativité des instances musulmanes. Or ça, si l'État n'essaye pas d'organiser un peu... avec des concertations, on n'y arrivera pas.
Non, mais il y a un truc qui m'a fait bondir, que l'État reprenne la main. Mais on parle de spiritualité. Est-ce que c'est à l'État de reprendre la main sur quelque chose?
Il y a deux choses. Il y a l'organisation et il y a la spiritualité. C'est non, deux
c'est
dimensions différentes.
C'est pas du culte qu'on parle, c'est juste l'organisation du culte.
Quand on commence à parler de la formation des imams, on est en train de rentrer dans la spiritualité. En quoi l'État français va dire le Coran, il dit ça et ça, c'est vrai.
Mais c'est vrai que l'État français ne s'occupe pas de la formation des prêtres.
Voilà. Donc c'est pas son rôle. Je dis pas qu'il doit tout laisser. Mais le problème, c'est que... Qu'est-ce que vous soulignez quelque part? C'est qu'en mettant en place des instances représentatives, on a donné un ticket aux forces les plus militantes au détriment de la masse des musulmans. C'est ce qui s'est passé avec Sarkozy et avec Chevènement. Et c'est ce qui va se repasser. C'est-à-dire, ce sont les gens les plus organisés qui agissent de façon coordonnée, qui vont donner le là au détriment de la majorité silencieuse.
On aura en tout cas, bien sûr, l'occasion d'en parler parce que ça sera le 15 septembre. Hein, donc je vous promets qu'on en parlera à la rentrée, hein, sans problème. Voilà, vous serez tous invités, ça sera formidable. Dans un instant, on parlera service militaire, on parlera également SNC. Voilà un programme chargé, mais il est à suivre dans quelques minutes dans les informés de France Info.
Okora, le monde des musiques traditionnelles. Un nouveau coffret 6 CD pour découvrir les musiques du monde entier. Savantes, religieuses, populaires. Collection Okora Radio France. Le monde entier l'a composé pour vous. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore un temps estival demain, du soleil pour tout le monde. Un ciel bien encombré le matin tout de même au sud de la Garonne. L'après-midi, il restera des nuages vers les Pyrénées. Peut-être une averse sur la chaîne pyrénéenne, un coup de tonnerre sur le Mercantour. Le vent de nord-nord-est sera encore présent un peu partout. Les températures continueront à grimper. Le matin, il fera 13 à 19 degrés, 16 à Paris, 19 à La Rochelle, Bordeaux, Perpignan ou Nice. L'après-midi, encore 33 degrés à Montauban, 33 aussi pour Cahors et Albi. Il fera 32 degrés à La Roche-sur-Yon, Avignon, 31 à Vannes, Poitiers, Lyon et Chambéry, 30 degrés à Paris, 29 à Brest, à Rouen également, et puis 23 degrés du côté de Granville. Les températures vont encore progresser jusqu'à la fin de la semaine. On aura une moyenne de 31 degrés au nord, 33 au sud. Le soleil aura encore largement l'avantage, mais ça deviendra lourd et parfois orageux sur l'ouest du pays.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Service minimum pour les Bleus dans le Mondial. Match nul 0 partout face au Danemark cet après-midi au terme d'une rencontre sans aucune saveur. Contrat certes rempli pour les hommes de Didier Deschamps qui terminent premier de leur groupe et connaîtront dans les heures qui viennent leur adversaire de samedi en huitième de finale. Ce sera contre un des gagnants des deux matchs de ce soir, Croatie-Islande et Argentine-Nigeria. Claude Bruyot, et pour l'instant ce serait l'Argentine que jouerait la France, mais ça peut changer.
Absolument, l'Argentine qui a fait le plus dur en ouvrant le score par Lionel Messi dès la 14e minute de jeu. Donc 1-0 pour l'Argentine devant le Nigeria. Pour l'instant, les Argentins donc sont deuxièmes. Et on suit de près l'autre rencontre, Islande-Croatie. Il suffit que les Islandais ouvrent le score et mènent 1-0 pour que ce soit l'Islande au goal average qui se retrouve deuxième, donc devant l'Argentine. Donc rien n'est fait après maintenant une demi-heure de jeu dans ces deux rencontres. 1-0 pour l'Argentine devant le Nigeria et 0-0 entre la Croatie et l'Islande.
Claude Bruyot en direct de Russie. Pour France Info, merci. Pour la première fois, Emmanuel Macron a rencontré le pape François. C'était ce matin à Rome. Le chef de l'État a passé près d'une heure avec le souverain pontife dans la bibliothèque du Vatican. L'entrevue s'est terminée par une chaleureuse embrassade. Elle a tourné autour de la question des migrants à l'heure où les Européens se déchirent sur le sujet. Une solution d'ailleurs dans ce contexte est en vue ce soir en Méditerranée puisque le navire de l'ONG Lifeline pourrait finalement accoster sur l'île de Malte au large de laquelle il se trouve depuis une semaine maintenant. Malte qui avait dans un premier temps refusé. L'Italie, elle prendra en charge une partie de 233 migrants qui se trouvent à bord, tout comme 6 autres pays européens, dont la France. Emmanuel Macron l'a confirmé tout à l'heure après avoir rencontré le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte. Prison à vie, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans pour Sabrina Kouider et Wissem Medouni. Les deux Français sont condamnés pour le meurtre à Londres de leur jeune fille au père, française elle aussi, Sophie Lyonnais. Son corps carbonisé avait été retrouvés dans leur jardin en septembre 2017. C'est l'épilogue d'une âpre judiciaire, une âpre bataille judiciaire, pardon, autour d'une mesure extrêmement controversée. La Cour suprême des États-Unis valide le décret anti-immigration de Donald Trump. Il interdit de façon permanente aux ressortissants de 6 pays, pour la plupart à majorité musulmane, de mettre le pied sur le territoire américain. Retour en France, 3 mois de grève, des centaines de milliers de courriers en souffrance et toujours pas d'issue en vue. Le conflit s'enlise à la Poste dans les Hauts-de-Seine où une partie des facteurs s'oppose toujours au licenciement d'un syndicaliste et aux réorganisations en cours dans l'entreprise. Et puis la plateforme Parcoursup, elle a rouvert après une interruption de plusieurs jours en raison du bac. Plus de 170 000 candidats sont toujours en attente d'une place dans le supérieur pour l'an prochain. L'an dernier, à la toute fin juin, ils étaient 117 000, un peu plus de 60 000 de moins sur 800 000 inscrits. Encore inscrits donc sur une liste d'attente avec APB, l'ancien système admission post-bac. Les informés, ça continue.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et oui, jusqu'à 21h, sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est revêtant la tenue du chanoine de la basilique des informés qui se sont présentés. Quelle chaleur d'ailleurs sous cette aube. Et autour de la table, nous trouvons ce soir Marion Mourgue du Figaro, Malik Lounas du Bureau National du Parti Socialiste, Fatima El-Ouazdi de Politiquel et Christophe Alix de Libération. Alors, je vais être très honnête avec vous, parce qu'après la réforme du Code du Travail, après la SNCF, la justice, le glyphosate, l'asile d'immigration, une soirée électro-alisée, la vaisselle présidentielle, le compte des comptes de campagne, on avait un peu oublié qu'Emmanuel Macron voulait un nouveau service militaire. Voilà, je dois le dire, c'était un moment, ça nous est complètement sorti de la table. Voilà, service, voilà. Et c'était, voilà, service civil, militaire, on ne sait plus d'ailleurs, justement, national. Parce que longtemps, ça a été entre les deux. Et j'avoue qu'on avait un tantinet oublié, donc allez savoir pourquoi. On pense même que le président de la République avait un peu oublié aussi, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est donc demain qu'Emmanuel Macron présentera le lancement du projet de service national universel au Conseil des ministres. Après des mois et des mois de discussions, de disputes, de casernes, pas casernes, de lits en portefeuille, de rations bio ou pas bio, ça commence à se dessiner. La preuve avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
A priori, on s'oriente vers à minima une période d'un mois, autour de l'âge de 16 ans. Et puis ensuite, il y a différentes modalités qui vont être mises en place. Il y a des gens qui pourront faire des périodes plus longues en fonction de leurs envies, que ce soit dans le domaine associatif ou dans le domaine plus militaire, dans le domaine civique, dans le domaine sanitaire.
Voilà, Benjamin Griveaux ce matin sur RTL. Alors, c'est vrai, Christophe Alix, ce qui peut faire un peu peur, c'est le a priori de la part du porte-parole du gouvernement. Parce que c'est ça qui est assez étonnant, c'est que on connaît sa durée, mais ça a été quand même un combat sur lutte, sur commission, ça a été très compliqué à mettre en place. Hein.
On sait depuis le début que c'est une idée que porte donc Emmanuel Macron, enfin c'est un engagement de sa campagne. Et on sait depuis le début que d'un point de vue budgétaire, c'est un énorme problème et une énorme difficulté. Donc, d'où les a priori, peut-être, etc., parce qu'on imagine que tout ne doit pas être encore parfaitement chiffré. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt un service national, c'est plutôt une extension du service civique.
C'est ça.
Maintenant,
on ne sait pas si ça sera les militaires qui vont s'en occuper ou pas.
Voilà. Partie. Alors maintenant, les objectifs paraissent quand même assez nobles, notamment avec l'idée de faire des bilans de santé, de vérifier les décrocheurs potentiels, de faire une petite mise à niveau sur quelques enseignements de base du type l'aptitude au numérique, un savoir minimal. On peut pas dire que toutes ces choses-là soit inutile dans la société française d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué de comment on le met en place et à mon avis, et surtout avec la contrainte budgétaire qui doit être très forte.
Il n'y a pas que la contrainte budgétaire, c'est-à-dire qu'on était parti d'une promesse de campagne où on était plus sur un retour du service militaire, même si ce n'était pas un engagement
raté,
d'un an.
C'est fini, ça.
Et rapidement, le gouvernement a vu que les militaires n'en voulaient pas, parce que c'est vrai qu'ils sont à l'os totalement en question budget et hommes.
C'est pour ça qu'on a mis fin au service.
Avoir une mission en plus qui était plutôt tournée vers les décrocheurs, les militaires ont dit on n'a pas les moyens. On a vu des ajustements qui ont été longs à arriver.
Est-ce qu'on ne serait pas quand même dans l'idée, tiens, j'ai une bonne idée de campagne qui n'est pas forcément réalisable. Il y a un moment, vous savez, ça peut arriver.
Justement, ce n'est pas la première. Et on voit bien que. Alors, Emmanuel Macron a toujours ce souci de dire je fais ce que j'ai dit, ce que j'ai promis. Donc, il faut qu'il ait coché la case en disant ça, c'est fait. Mais on est quand même loin de la promesse de campagne. Bretagne.
Fatima El-Ouazdi, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut véritablement être utile? Voilà, alors ça devrait être mixte, hein, normalement, oui. Les garçons et les filles, mais est-ce que c'est utile, un mois, véritablement?
Alors, un mois, ça me paraît un peu long. Après, je trouve que...
Certains diraient court, c'est pour
enfin, moi, ça me paraît déjà long. Enfin, je veux dire, moi, j'ai passé ma JAPD il y a 6 ans. Moi, je peux vous dire que j'ai trouvé le temps long en une journée. Alors, franchement, un mois, je ne sais pas ce qu'on va faire. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, par exemple, pour limiter les décrochages, que ce soit dans le numérique, pour justement former les jeunes, par exemple, à l'égalité femmes-hommes. Ça peut être aussi une excellente base pour lutter contre les inégalités. Ça peut être aussi une bonne base d'enseignement de la citoyenneté, de la laïcité, des principes de la République. Après, au-delà, il faut quand même occuper des jeunes pendant un mois. Déjà, quand on part en colonie, c'est une semaine et on commence à trouver le temps long. Alors, un mois, franchement, je pense que toute mesure, moi, je me demande vraiment ce qu'on va faire.
Alors, on sait très peu de choses.
Parce que c'est un mois comme à l'école. Je ne sais pas qui va apprécier ça.
Voilà, Malik Lounès.
En fait, l'idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient d'un constat, c'est que le service militaire était un creuset de la nation au sens où il permettait à des gens qui, sinon, ne se rencontraient jamais, de se rencontrer, dire des pauvres, de rencontrer des riches.
Est-ce que
des
c'est vrai? Est-ce que c'était pas un peu un fantasme? Enfin, alors, il y a un moment.
Non, ça a été une réalité, et si vous voulez, et aujourd'hui, ça prend une importance un peu particulière parce que la société française s'est ghettoisée. Quand vous regardez, par exemple, la banlieue d'Île-de-France, vous vous rendez compte que dans les années 70, les enfants des pavillons allaient dans le même collège que les enfants des cités HLM, qu'à partir des années 80, ce n'était plus le cas, qu'aujourd'hui, ce mélange social se produit au mieux au lycée, et encore, ça dépend de la carte scolaire parce qu'il y a des lycées, y compris en banlieue, qui sont très homogènes sociologiquement, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Bon.
Et
le service militaire permettait ça. Permettait ces rencontres qui, par la suite, étaient très importantes.
Pendant les classes.
Mais il durait 2 ans. Ouais. Qui ensuite étaient très importants dans la vie professionnelle, parce que dans la vie professionnelle, il y a la cooptation. Et que le fils d'ouvrier ait rencontré le fils de bourgeois, et ben, effectivement, ça lui ouvrait des machins, etc. Bon. Est-ce la bonne réponse pour autant? Ouais. Moi, je ne crois pas, parce que se pose la question du sens. Service militaire, c'est un sens. C'est défendre la nation. Donc, quand on est dedans, on sait pourquoi on est là. Et ça donne un cadre, des tâches, une logique, un esprit, etc., etc. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sens. En gros, c'est la colonie de vacances. Pourtant, il y aurait des choses à faire.
Un peu sévère. Ouais,
je vais donner juste un exemple. Parce que ça donnera peut-être une idée aussi à mes petits camarades socialistes. On est en plein dans les histoires de Parcoursup.
Oui.
Les jeunes ont un gros problème, c'est qu'ils fantasment sur des métiers qu'ils ignorent. Ils imaginent des métiers extrêmement attractifs qui, en fait, ne leur conviendraient pas du tout. Et ils mettent de côté des métiers qui, en fait, pourraient leur plaire, machin, etc. Donc, si ces 3 mois de service civil, parce que ce n'est pas un service militaire, pouvaient servir, effectivement, de pré-expérience professionnelle avec les moyens du numérique, d'inventer des simulateurs de métiers comme on fait sur les jeux, etc. Et de mettre tout le monde dans ce bain-là. C'est-à-dire, on fait un truc pour les jeunes, avec les jeunes, pour leur avenir professionnel. Il y a un intérêt pour le pays, il y a un cadre, il y a du sens. Ça, ouais. Mais, voilà.
Tout dépend du budget.
C'est pas ce qui est proposé.
On ne connaît pas encore le budget, mais de toute façon, le texte est présenté demain.
On connaît pas le retour sur investissement, surtout.
Le texte est présenté demain en Conseil des ministres, donc là, on en saura plus et on saura aussi l'enveloppe.
Enfin, vu la déclaration de Griveaux, ça va être un serpent de mer. Okay, quand on commence la veille du Conseil des ministres, a priori, on va. C'est-à-dire que rien n'est calé, que ça va traîner, ça va revenir. Enfin, bon,
normalement, on devrait connaître le coût de cette
comme
opération.
La loi sur les fake news.
On va y revenir dans un instant.
Ouais, ce genre de truc, c'est les bidules, tu sais qui.
On y revient dans un instant. L'info à 20h40, Diane Fierschit.
Pour la première fois, l'IGPN, la police des polices, donne le chiffre des personnes tuées ou blessées pendant des interventions policières en France. 14 tués, une centaine de blessés depuis juillet 2017. Un recensement qui n'est pas celui des bavures policières, prévient la chef de l'IGPN. Sudrail et la CGT appellent à la grève les 6 et 7 juillet à la SNCF au moment des départs en vacances. De leur côté, la CFDT et l'UNSA confirment suspendre le mouvement alors que le dernier épisode de grève de 2 jours débute demain. Au niveau du trafic, 4 TGV sur 5, 3 intercités et TER sur 5, ainsi que 2 transiliens sur 3 seront en circulation. Dans l'affaire du meurtre de Sophie Lionel, les Français Sabrina Couder et Wissem Medouni sont condamnés à la prison à vie, assortis d'une période de sûreté de 30 ans. Ils ont été reconnus coupables d'avoir tué leur jeune fille au père, âgé de 21 ans en septembre dernier. Ils avaient tenté de faire disparaître son corps en le brûlant dans leur jardin au sud-ouest de Londres. Toujours au Royaume-Uni, la loi sur le retrait de l'Union européenne a été promulguée après plusieurs mois de débats au Parlement britannique. Le texte a été signé ce matin par la reine. Il doit permettre au pays de continuer à fonctionner normalement quand il se sera séparé de l'UE et confirme également la date officielle du Brexit. Ce sera le 29 mars 2019 à 23h.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info demain, on connaîtra eh bien le cadre hein, de ce service civil voulu par Emmanuel Macron, qui n'est plus militaire civil, mais il y aura quand même des militaires dedans. Enfin, c'est un peu compliqué. Normalement, on devrait en savoir un peu plus demain. Fatima El-Ouazine, il devrait y avoir une consultation auprès des jeunes Français pour savoir ce qu'ils veulent vraiment.
C'est encore heureux qu'on demande leur avis aux concernés. Oui, mais j'espère qu'il y aura des choses intéressantes. Comme pourquoi pas des stages dans des associations.
Est-ce que vous y croyez, vous, sur le côté creuset républicain? Voilà. Est-ce que ça veut dire un mois, comme vous avez parlé tout à l'heure, peut-être rattrapage scolaire, mais sur le côté sens de la République,
non,
même sens de la République à travers cet exercice?
Moi, je pense qu'il peut y avoir un intérêt dans la République et un enseignement qui va plus loin. Parce que moi, dans mes souvenirs, j'ai quitté le lycée il n'y a pas si longtemps que ça, et les cours d'éducation civique, c'était plutôt léger. Hein,
oui,
et on n'assistait pas sur des notions très importantes. Et je pense que ça peut être l'occasion juste de resituer les bases de ce qui nous unit en tant que citoyen et citoyenne français, et de s'intéresser à ce qu'est la laïcité, ce qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qu'est également l'éducation, l'égalité, la fraternité, toutes ces notions-là que j'ai l'impression qu'il manque à énormément de personnes. Et après, ça se ressent aussi dans l'engagement citoyen des jeunes qui ont envie de faire des choses au niveau des associations, des partis politiques, mais qui s'engagent peu finalement. Mais ça peut être aussi la base de cet engagement-là.
Ouais, Christophe Alix, ça peut justement jouer c'est un gadget comme le disait tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit où une classe d'âge, dans une zone géographique donnée, se retrouve au même endroit, au même moment, pour faire la même chose. Mmh. Ça n'existe plus.
Et c'est vrai. Dans les jeux vidéo.
Oui, non, les jeux vidéo, c'est chacun chez soi. Donc.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est vrai quand même qu'il y a un côté, de ce point de vue-là, de mettre le même programme de base à tout le monde. Il y a quand même un côté creuset républicain. Il y aura quand même pour un certain nombre de gens la prise de conscience qui vivent dans une société qui idéalise un petit peu et qui n'est pas exactement...
Par exemple, l'école ne remplit plus aussi ce rôle, c'est-à-dire
pas assez scolaire. Non, parce que justement, aujourd'hui, comme vous le dites, l'école est de plus en plus... Enfin, ghettoisée, les riches vont avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Deuxièmement, je vois qu'il y a quelques détails qui ont commencé à filtrer sur ce service physique. Ce serait aussi une occasion de repérer des décrocheurs et de pouvoir après les rentrer dans des formations plus importantes dans un deuxième temps qui s'assimilerait plus ou moins à un service civique. Donc il y a des bonnes choses là-dedans. Pardon?
C'est 10% les décrocheurs.
Mais
c'est à peu près 800 000 gamins. Les décrocheurs, c'est 130 000, 100 000, je crois, sur une génération. Donc voilà, quoi. On va faire un dispositif pour un dixième.
Oui, et en plus, tous les décrocheurs n'iront pas là, ça c'est sûr.
C'est surtout que tout ce qu'on dit là, en principe, c'est l'école. Donc soit on part du constat que l'école ne fonctionne pas, et dans ces cas-là, on réforme, on met des moyens, on renouvelle, etc. Soit on se dit, ça marche pas, et on crée une deuxième structure avec moins de moyens, sachant pas trop ce qu'on va faire, c'est voué à l'échec.
On peut aussi se poser la question de la façon dont on vit ensemble. Quand vous regardez la place des jeunes dans la cité, dans la ville, prenons l'exemple d'une ville de banlieue, où ils se retrouvent? À l'entrée du lycée, au centre commercial et à la gare. C'est-à-dire que l'espace public n'est pas conçu avec des lieux de rencontre, alors qu'il y a une demande, puisque quand vous regardez les nouvelles pratiques sportives urbaines, vous avez des jeunes de classes sociales différentes qui s'emparent de la ville pour pratiquer un sport de rue, de plein de façons différentes. Donc il faut peut-être avoir une réflexion sur la place des jeunes dans la ville, sur ses équipements, sur le brassage social.
Vous dites qu'un mois.
J'ai été longtemps militant associatif. Je vois bien l'intérêt pour les associations d'avoir ce type de truc, mais c'est pas ça qui est recherché en même temps. Parce que des associations, il y a Unicité qui existe, qui fait déjà un peu ce genre de truc. L'idée, c'est quand même que les gens apprennent à se connaître et vivent ensemble une aventure. C'était ça, quelque part, le service militaire.
Oui. Bon. Oui, mais c'était donc, sur une année, ça peut pas être un
mois. Oui, enfin, c'était des classes, surtout. Ça durait 2 mois.
Sur 3 mois, il y aurait quelque chose de sérieux à faire, pourvu que ce soit pas d'occupationnel et qu'il y ait un retour d'investissement sur la nation. Un peu de militaire, un peu de service civique, et un peu de préparation.
Mais quand même un petit peu, étant donné qu'au début on était, un petit peu de sensibilisation aux enjeux géopolitiques.
Ce mot de service militaire revient souvent, régulièrement, dans la bouche de certains en disant en gros, faudrait le remettre en place. On se souvient, malheureusement, dès qu'il y a un attentat ou quelque chose comme ça, on dit à cette jeunesse qui n'a plus droit au service militaire, il faut les remettre. On entend ça par exemple, Éric Ciotti, lui est très pro-service
Il n'a pas fait le sien.
François Fillon lui a épargné.
Ce sont des métiers de plus en plus techniques aujourd'hui.
Ah, bien sûr, oui, Marion Maury.
Oui, il y a cet aspect-là des métiers de plus en plus techniques avec des interventions sur les domaines extérieurs pour la France. Donc, de toute façon, il y a un moment, la France ne peut pas tout financer, sachant qu'il y a quand même une dette publique qui est très importante, d'où le fait que c'est compliqué de le réinstaurer.
En tout cas, on aura l'occasion bien sûr d'y revenir demain quand on en connaîtra normalement, hein, je dis bien un peu plus, à moins que ça soit retardé, on ne sait pas. Allez, tiens, si on parlait un peu de la SNCF. Ah bah oui, tiens, depuis le 3 avril, nous avons troqué notre abonnement Grand Voyageur pour un abonnement Grand Débatteur. Jeudi, nous arriverons au dernier jour officiel de grève, comme prévu hein, par le calendrier des grévistes. La loi a été votée, les concertations sur la convention collective sont en cours. Reste à savoir si certains syndicats souhaitent continuer le mouvement. Les palmes aux pieds pendant les vacances. Eh bien, avant même le début de l'intersyndicale, cet après-midi, on connaissait les positions des syndicats. Ainsi, la CFDT Cheminots et l'UNSA ont confirmé qu'elles ne feront pas grève cet été, contrairement à Sudrail, qui a annoncé que ses adhérents seront en grève les 6 et 7 juillet, comme la CGT, le premier week-end des vacances d'été. Fatima El-Wazdi, est-ce qu'il y a un intérêt, finalement, aujourd'hui, à partir désunis ? On a vu une intersyndicale assez forte, la SNCF, et aujourd'hui, on voit, c'est totalement effondré, cette intersyndicale, et la CGT et Sudrail partent et continuent pendant l'été.
On voit qu'il y a des personnes, en tout cas il y a des syndicats qui sont prêts à travailler pour obtenir des choses, et on voit qu'il y en a qui sont dans le conflit permanent et qui sont dans le conflit en fait de la vision d'Emmanuel Macron, des institutions, de la façon dont il voit la société, dans la façon dont il veut faire une réforme sociale, du travail, etc.
Certains disent qu'il a quand même supprimé les corps intermédiaires, donc c'est pour ça que...
Mais en fait le problème c'est qu'ils vont obtenir quoi ? À quoi ça sert ? Est-ce que vraiment c'est de prendre en otage les Français au quotidien comme ça a été le cas depuis trois mois maintenant? Est-ce que vraiment il y a un quelconque intérêt? Est-ce que ça a marché? Moi je leur pose la question, est-ce que ça a marché? Bah non, ça n'a pas marché. Donc est-ce que vous pensez que
Emmanuel Macron va...
Non mais enfin oui, désolé d'ailleurs, non, c'est vrai que je m'en rends pas compte, mais c'est pas juste envers l'otage, et j'ai une pensée pour Sophie Pétronin qui est retenue au Mali.
Mais
ce que je veux dire c'est que c'est pas juste, c'est les vacances, les Français ont travaillé, on paye leurs vacances, ils ont pas forcément beaucoup d'argent pour ceux qui partent, donc ils payent ces vacances là. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'en doute.
Malik Lounès, est-ce que finalement c'est au risque d'être impopulaire parfois? Parce que là, c'est quand même le premier week-end des vacances. Il est ciblé ce week-end, forcément, 6-7 juillet. Est-ce que c'est au risque d'être impopulaire?
Je crois que c'est surtout... ce qui a fait la force du mouvement, c'est l'unité syndicale. Oui. Il y en a qui sont pour la briser dans une dérive que je qualifierais de gauchiste, il faut donner le terme hein, en fait, donc l'extrême gauche radicale qui est très implantée à Sudrail et peut-être un peu moins à la CGT, mais qui a un effet d'entraînement, qui est dans une logique un peu de desperados. Et il y a eu une première fracture en fait, c'est quand ils ont appelé à faire la grève le jour du bac.
Oui. Si
l'enjeu c'est l'opinion publique, avec un gouvernement qui a joué le pourrissement et la dureté en espérant que l'opinion publique se retournerait contre les grévistes, et des grévistes qui ont plaidé leur cause en espérant que, bon, du point de vue de l'opinion publique, on a l'impression que c'est un peu un match nul. Moi je suis pas sûr qu'il soit si nul que ça, je pense qu'il y a un acquis dans cette grève qui est quand même la capacité de résistance et la brutalité du
les
pouvoir en place.
Les syndicats ont fait un petit peu bouger quand même.
Et je termine là-dessus. Quelque part, Macron aurait voulu avoir ce que Thatcher a pu avoir avec les mineurs anglais ou Reagan avec les contrôleurs aériens, c'est-à-dire une grosse défaite de bastions syndicales, d'ouvriers à l'ancienne, etc. Ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être que les gauchistes vont lui apporter ça, parce que s'ils clivent le mouvement et si effectivement ils mettent les gens dans la difficulté, ça va se retourner contre eux. Donc c'est pas intelligent.
On va continuer dans un instant parce que juste on va aller faire un petit point du côté de la Russie avec vous, Claude Brouillot. C'est la mi-temps hein, des deux matchs, je crois, Islande-Croatie, Nigeria-Argentine. Où en est-on?
Toujours 1-0 pour l'Argentine à la mi-temps, but de Lionel Messi. Messi qui a bien failli doubler la mise sur un coup franc remarquablement travaillé par le meneur de jeu argentin et Uzodo, le gardien nigérian, qui dévie du bout des doigts vraiment ce ballon sur son poteau gauche. Et donc toujours 1-0 pour l'Argentine face au Nigeria, c'est la mi-temps. 0-0 en ce qui concerne l'autre match entre l'Islande et la Croatie, mais les Islandais poussent énormément et ont eu deux occasions d'ouvrir le score, ce qui aurait voulu dire tout simplement que l'Islande était à ce moment-là deuxième et donc l'Argentine troisième, mais les Islandais n'ont pas réussi à tromper les Croates.
Eh bien, on verra en tout cas. Merci beaucoup, Claude Brouillot. On vous retrouvera bien sûr tout au long de la soirée. L'info à 20h51, Diane Ferschit.
Rome, Paris, mais aussi quatre autres pays européens accueilleront certains des 233 migrants à bord du navire de l'ONG Lifeline. Le bateau humanitaire va pouvoir accoster à Malte ce soir. Il attendait depuis une semaine de trouver un port pour l'accueillir. Emmanuel Macron, actuellement en Italie, affirme que des agents de l'OFPRA sont en route pour Malte. Il s'est entretenu en fin de journée avec le chef du gouvernement italien. Selon lui, l'ONG allemande Lifeline a agi contre toutes les règles. Il l'accuse de faire le jeu des passeurs. L'armée syrienne lance une offensive pour reprendre les quartiers rebelles de la ville de Deraa, dans le sud du pays, annonce des médias d'État. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte des raids aériens du pouvoir et de son allié russe sur ces quartiers rebelles. Il affirme que des barils d'explosifs sont largués par hélicoptère. Depuis une semaine, 45 000 civils ont fui la région, selon l'ONU. 4 TGV sur 5, 3 intercités TER sur 5 et 2 transiliens sur 3. Les prévisions de la direction de la SNCF pour demain, 18e et dernier épisode de la grève contre la réforme ferroviaire à l'appel de l'intersyndicale. Une mobilisation que la CGT veut poursuivre cet été. Avec Sudrail, elle appelle à faire grève au début des vacances scolaires les 6 et 7 juillet. De leur côté, la CFDT, cheminots et l'UNSA suspendent leur participation au mouvement. La justice confirme en appel l'annulation de l'encadrement des loyers à Paris. Les requêtes déposées par l'État ainsi qu'une association sont rejetées, dit la cour d'appel. En première instance, les juges avaient estimé que pour être conforme à la loi, la mesure aurait dû concerner l'ensemble de l'agglomération parisienne et non la seule capitale.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, si vous partez les 6 et 7 juillet en train, prenez vos précautions car Sudrail et la CGT Cheminot ont annoncé qu'ils continueraient le mouvement contre donc la réforme de la SNCF pendant ce week-end. Christophe Alix, je disais tout à l'heure, au risque d'être impopulaire côté
oui,
jusqu'au
alors
bout
il faut
pas.
Quand même il faut quand même noter que la participation à la grève a quand même plutôt baissé ces derniers temps. Que là, il va plus y avoir que Sudrail et la CGT. Donc, il y aura certainement des perturbations les 6 et 7 juillet. Mais enfin, on ne sera pas au niveau de mobilisation qu'on a pu avoir au début du mouvement.
C'est ça, ouais.
L'autre point, c'est également que finalement, cette unité syndicale qui a quand même permis, je crois, de faire un petit peu avancer le projet, d'avoir certaines modification, même si sur le fond, Macron n'a rien changé, c'est-à-dire la fin du statut de cheminot et l'ouverture à la concurrence, qui de toute façon n'est pas une décision française, mais européenne. Il va quand même y avoir, là, on a le retour finalement à deux lignes syndicales, une ligne plus réformiste et puis une ligne d'opposition. Et d'ailleurs, on voit que la CGT et Sud considèrent presque qu'aujourd'hui, qu'ils ont été presque trop, pas assez combatifs dans leur opposition, que Macron va finir par se planter et que donc il faut vraiment revenir à une stratégie de lutte. Et il y a plutôt d'affrontement. Et les éléments qui poussent, disons, vers cette stratégie plus radicale, à Sud, ils ont toujours été là. Alors, et même à la CGT, ils semblent aujourd'hui en passe d'être plus influent.
Marion Maug, il y a aussi, on le sait, derrière, alors il y a aussi des élections syndicales qui se jouent.
Des élections professionnelles
à la fin de l'année.
Et c'est important de montrer aussi qu'on est le plus combatif.
C'est vrai qu'il y a une sorte de jeu de rôle de part et d'autre. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait besoin d'une grande manifestation pour montrer que sa réforme était très importante et qu'il y avait de la résistance. Et à l'inverse, les syndicats ont aussi besoin de manifestations pour montrer qu'ils pèsent dans le débat et qu'ils sont encore des interlocuteurs. Après, le choix qu'ils ont fait de la grève perlée, finalement, et peut-être aussi l'élément contre-productif. C'est-à-dire
un choix de communication intéressant au début parce que ça avait surpris. Au début, je pense que
ça a interpellé.
Et après, c'est vrai que
préférait la grève illimitée.
C'est vrai qu'il y a un moment, les Français se sont habitués, se sont organisés. Et
avec
il y a eu,
Macron,
alors évidemment, il y a de la gêne, mais il y a aussi une impression que finalement, c'est pas aussi important qu'en 95, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Il y avait cette comparaison par rapport à 95 ou pas, Mike Younes?
Évidemment qu'elle était dans les esprits, mais il y a toujours des éléments de contexte. C'est-à-dire que 95, c'est pas juste la grève de la SNCF, c'est toute une série. C'est les retraites. C'est toute une série de choses qui se sont passées dans les 6 mois précédents qui, à ce moment-là, se sont cristallisées. Bon. Moi, je pense que il y a deux choses, si vous voulez. Il y a des gens qui font de la politique, mais qui le font sous couvert de syndicats. Et ça, c'est un problème. Parce que, en fait, ils ne font de bien ni à la politique, ni à leurs mandants syndiqués. Ça, c'est une première chose. Après, il y a un autre aspect, c'est que je crois que ça va laisser des traces profondes. Il y a une concomitance entre la grève de la SNCF, la CSG, appliqué aux retraités et des cadeaux fiscaux faits aux plus riches, dans la même séquence en janvier-février. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester de ce mouvement-là. C'est ce truc-là. Que ça va mûrir, c'est-à-dire que quelque part les cheminots n'ont pas été impopulaires parce qu'ils se font l'écho d'autres choses qui les dépassent et qui sont en résonance avec le reste du pays. Quand va arriver à l'histoire des retraites,
la convergence des luttes qui n'a pas marché.
C'est pas la convergence des luttes pour le coup, c'est un sentiment, un état d'esprit général, une découverte parce que. D'une politique qui va très à droite, dont on ne pensait pas qu'elle serait aussi à droite et qui commence à susciter ses premiers lignes de résistance et qui se sont cristallisées dans ce moment particulier.
Pour terminer, Fatima El-Mouazzi.
Juste pour dire, la convergence des luttes, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de convergence juste des luttes entre les hôpitaux, la SNCF. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'idéologie commune et je pense que ça ne fonctionnera pas pour l'instant. Ça fonctionnera peut-être dans un autre temps de ce quinquennat, je ne sais pas.
En tout cas, on verra. Allez, rentrez. Allez, en tout cas, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Malik Lounès, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci, Fatima El-Wazdi. La Une Figaro demain, Marion Mourieux.
Eh bien, les élections européennes qui font peur aux partis et à tous les partis.
Bien sûr, la Une de Libération, Christophe Alice.
C'est sur le congé parental, la manchette Papa, t'es où ?
Ah, très bien, et ben voilà, retrouvez. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili, bonsoir.
Ah oui, papa, t'es où ? Je viens de t'en prendre. Oui, bonsoir Jean-Mathieu.
Bonsoir pour toutes les politiques.
Alors, on va parler du futur service national universel, du sort d'Air France. Oui. Nous évoquerons la SNCF également. Nous reviendrons sur Rome et sur, évidemment, le Lifeline avec Jean-Baptiste Djebbari de La République En Marche, avec Fabienne Keller d'Agir, André Chassaigne du Parti Communiste et Régis Juanico de La Nouvelle Gauche.
Et toutes les politiques, c'est dans quelques minutes sur France Info.